autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs libres et curieux, entre visibles et invisibles aujourd'hui. Pour nous intéresser au vaudou, loin des idées préconçues et des fantasmes, nous allons tenter de remonter à sa source, dans les forêts sacrées du Bénin, là où s'est développé ce culte animiste, cette religion initiatique, trop souvent réduite à son aspect magique, voire sorcier. Sauf que le vaudou, c'est beaucoup plus que cela. C'est un autre rapport de l'homme à la nature et aux dieux, pour reprendre le titre de l'ouvrage du médecin et anthropologue Philippe Charlier, lui-même initié au vaudou et qui vient de publier une vraie somme sur le sujet dans la collection Terre humaine chez Plon. Que nous apporte ce triple regard de notre invité, médecin, archéologue et anthropologue sur le vaudou, du Bénin jusqu'en Haïti? Comment l'explorer? Est-il possible de l'étudier et de comprendre pourquoi il a été à la fois adopté et rejeté? Autour de la question, pourquoi remonter à la source du vaudou au Bénin? Première piste de réponse de l'artiste haïtien et prêtre vaudou Hérol Josué, recueilli en sol majeur sur RFI par Yasmine Chouaki, sur la terre rouge du Bénin, où un autre artiste du vaudou, le roi Alec Péanou, chante l'épopée du roi Guézo.
Les deux pieds ancrés dans la terre d'Afrique, les deux pieds bien ancrés, les cheveux dans le vent, dans la forêt sacrée. C'est très symbolique d'être dans cette forêt sacrée. Chez nous également, dans le vaudou haïtien, il y a cette forêt sacrée. Mais cette forêt sacrée, elle est, on ne la voit pas.
Ma fè si yon kha ou si na yi ko owe a. A tje dje di nou mi yon nan do chi di gbi di gbi di.
Tu ore si tu.
O mwa tje bi akbe do kha di we.
Dans la voix du vaudou béninois. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous pour porter un autre regard sur le vaudou, votre regard de médecin, anatomopathologiste, mais aussi archéologue et anthropologue. Vous êtes aujourd'hui, Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Après avoir été, dans l'une de vos nombreuses vies, si j'ose dire, médecin légiste, médecin des morts, pour reprendre le titre d'un autre de vos ouvrages, c'est vous qui avez entre autres authentifié le crâne d'Henri IV ou la mâchoire d'Hitler, comme vous nous l'avez raconté ici même et dans plusieurs essais passionnants. Vous avez aussi mené une enquête anthropologique scotchant elle aussi sur les zombies en Haïti, où vous avez évidemment croisé le vaudou, sur les routes du vaudou. Vous aviez commencé par aller à la source, au Bénin donc, que vous sillonnez depuis plus de 15 ans, grâce, on y reviendra aussi, à votre ami, votre frère médecin béninois Luc Brun, que l'on entendra, et qui a une belle part aussi dans cet ouvrage formidable que vous venez de publier dans la très prestigieuse collection d'anthropologie Terre humaine, chez Plon, Vaudou. L'homme, la nature et les dieux au Bénin, sacré programme d'exploration, j'ai presque envie de dire de réhabilitation, en tout cas de remise au point sur le vaudou. Qu'est-ce qui vous a fasciné, qu'est-ce qui vous fascine toujours dans et sur le vaudou? Philippe Charlier, y a-t-il un écho aussi avec votre parcours, votre histoire?
Je pense qu'il y a probablement un écho en effet avec mon parcours et mon histoire, c'est que le vaudou est une façon, d'abord c'est une religion à part entière et en effet elle a assez souvent mauvaise presse, que le vaudou soit du côté de l'Afrique ou du côté de la Caraïbe, mais surtout le vaudou est une façon d'interpréter le monde des vivants et le monde des morts en une véritable continuité. Il n'y a pas de...
Ah, nous avons perdu Philippe Charlier. Continuité entre le monde des vivants et le monde des morts, mais pas continuité sur notre ligne reportite. Alors je regarde Hugo Violas. Et Philippe Charlier, vous êtes là.
De retour.
De retour, cette fois-ci sur la ligne téléphonique, mais on est toujours en lien. Et vous nous parliez, il y a d'étranges circonstances parfois, justement de cette du vaudou, hein, autour de la question pourquoi remonter à ses sources jusqu'au Bénin, et du vaudou qui était une religion à part entière, et surtout dans ce qui faisait écho à votre histoire, à votre parcours aussi de médecin légiste et d'anthropologue, Philippe Charlier, c'est le lien ininterrompu finalement entre la vie et la mort, les vivants et les morts dans le vaudou, c'est
oui.
Ça
C'est ça, c'est une ligne continue entre les vivants et les morts, une façon qu'ont les vivants d'entretenir toujours un rapport extrêmement présent avec les morts et les morts qui ont du mal à se passer des vivants. Une des choses qui m'a le plus interloqué ou attiré, ou en tout cas pris à partie, c'est lors d'un de mes premiers voyages au Bénin avec Luc Brun. J'étais dans une voiture et un coup de téléphone a sonné, a été pris par un de mes amis, et je l'ai entendu simplement opiner du chef, répéter la même parole pendant de longues minutes, ne pas poser de questions, rester totalement passif, si on peut dire. Et puis j'entendais cette voix à travers le combiné, qui est une voix très nasale, très 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 bizarre. Et puis ensuite il a raccroché, et en fait la personne qui était au bout du fil, d'après mon ami, en fait, c'était son grand-père qui était mort depuis 15 ans et qui continuait encore à entretenir un rapport avec lui. Ça, sur le plan anthropologique, on a beaucoup de récits, d'histoires, on a beaucoup de concepts de témoignages de ces morts qui refusent de rester dans leur terre et qui veulent toujours continuer à enseigner, à distiller un savoir. Et ça, c'est vraiment une partie prenante qu'on retrouve autant dans le vaudou béninois que dans le vaudou haïtien.
Et c'est ça aussi, j'imagine, qui a attisé votre intérêt. C'est pas tant de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est ailleurs que ça se passe. Et c'est aussi ce lien entre les morts et les vivants, puisque vous avez commencé votre carrière en autopsiant des morts, justement pour nous apprendre quelque chose sur le temps de leur vivant. C'est ce lien-là qui vous intéresse, qui nous emmène ailleurs, qui nous fait aussi entendre la souffrance. La souffrance. On y reviendra, de nos ancêtres.
Dans une première partie de ma vie, en effet, j'ai été médecin autopsieur, donc je travaillais pour la justice, je faisais des autopsies, j'ai dû en faire 2000 à peu près, et pendant une période de 10 ans. Et c'est sûr qu'à force de travailler sur des corps morts, on finit par s'interroger sur d'abord le sens de la mort, mais également sur l'anthropologie de la mort et des pratiques funéraires. Et le hasard, les vicissitudes de la vie, mon internat à Lille, mes relations ont fait que je me suis notamment penché surtout sur l'Afrique subsaharienne, et en l'occurrence sur le Bénin, et ça a été une véritable découverte de voir comment la mort était appréhendée. Mais on est forcé de s'interroger sur ce que sont les funérailles, les rituels de funérailles, les levées de deuil. Voilà comment se fait ce passage d'une dimension à une autre, d'un état à un autre, et ce que signifie véritablement la mort. Car la mort pour nous occidentaux n'a rien à voir avec la mort dans le vaudou. Ce sont deux choses complètement différentes. L'extinction de la vie, c'est dans un corps qui du coup devient inerte. La véritable mort, c'est l'oubli. C'est l'oubli. C'est quand quelqu'un n'est plus visible, mais qu'on entretient encore un rapport avec lui par le souvenir, par son nom, par son épopée ou autre, alors il n'est pas encore mort. La mort, c'est quand on ne se souvient plus de lui, quand son nom n'est plus prononcé, quand on ne sait plus où se trouve sa tombe, et quand il retombe à l'oubli.
D'où l'intérêt que cela a pour nous d'entendre, de regarder, d'écouter d'autres rapports à la mort, justement, puisque ça nous concerne tous. C'est la question de l'oubli, c'est évidemment ce qui nous concerne tous autour de la question pourquoi et comment justement remonter à la source du vaudou au Bénin. Philippe Charlier, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut remonter plus loin encore dans le temps pour mieux comprendre ce rapport à la mort, remonter plus loin encore dans le temps et dans l'espace? C'est précisément la question que vous pose une préhistorienne, Marilène Patoumatis, qui était récemment notre invitée.
J'ai une question pour Philippe Charlier. Sait-il ou a-t-on des arguments pour dater, en quelque sorte, même si c'est une façon large, l'origine du vaudou? Est-ce qu'il pense que cette croyance, ces rites, sont vraiment très lointains, prennent sans racine dans la préhistoire?
Qu'en pensez-vous, Philippe Charlier ?
Ça fait plaisir d'entendre mon amie Marilène Patoumatis, avec qui j'ai collaboré sur des squelettes préhistoriques, donc c'est toujours agréable. La question est vraiment pertinente, bien sûr. De quand date une religion ? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Quand est-elle apparue ? Comment est-elle apparue ? Eh bien, pour le vaudou, c'est difficile à dire. Il y a des croyances qui sont d'origine yoruba, en l'occurrence, également fon, donc on est sur deux populations qui sont originaires respectivement du Nigeria et du Bénin actuel. Et les plus anciennes anciennes occurrences, les plus anciens témoignages qu'on peut avoir du vaudou tel qu'on l'entend actuellement datent du XVIe, XVIIe siècle. Il est possible qu'il ait existé depuis d'une façon plus ancienne, peut-être jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, et c'est là que l'archéologie est importante. C'est là que la réalisation de fouilles archéologiques telles que j'emmène actuellement avec Didier Nda sur le plateau d'Abomey, notamment dans les palais royaux d'Abomey, les palais des rois Glélé, Guézo, Béanzin, etc., eh bien, on est en train de toucher à des couches stratigraphiques qui nous permettent d'avoir une sorte de chronologie à la fois politique et aussi religieuse de l'occupation de cette ville qui est à peu près à 200 km au nord de la capitale, Porto Novo. Et là, on aura peut-être une réponse un peu plus précise à cette question posée par Marilène Patou-Matisse. Il y a vraiment eu des courants successifs, c'est-à-dire que chaque population, les Yoruba, les Fon, les Ewe, ramenaient en fait à chaque fois une divinité, un courant religieux, un fétiche qui avait des propriétés particulières. Et il faut bien comprendre que la religion vaudou est un amalgame, mais ce n'est surtout pas péjoratif, c'est un enrichissement permanent de la religion par une population, une autre population, un conquérant qui, prenant une nation démise, récupérait telle ou telle divinité qui pouvait être importante pour son propre peuple.
Oui, vous avez parlé, parce que le vaudou, on a l'impression c'est toujours très mystérieux. Vous avez employé le mot fétiche, hein, puisqu'il y a la question des fétiches, il y a beaucoup d'épopées qui racontent l'histoire de ces rois. C'est vraiment, vous définissez le vaudou comme une religion qui a, agrégé peut-être plein de rites différents. C'est comme ça que vous, un culte, une culture très diverse. Comment vous diriez ça,
Philippe Charny? D'abord, c'est une religion à part entière, sur un pied d'égalité avec le catholicisme romain, le protestantisme, l'islam ou le judaïsme. C'est vraiment une religion dans tout ce qu'il y a de plus respectable possible. Évidemment, sur cette religion et en marge, vraiment de façon périphérique, viennent se greffer des pratiques de sorcellerie qui ont fait l'image actuelle du vaudou, qui est une image malheureusement galvaudée, critique, et c'est assez dommageable. Que ce soit pour le vaudou du Bénin ou que ce soit pour le vaudou haïtien. Mais j'ai envie de vous dire, de la même façon qu'il y a des pratiques de sorcellerie dans le christianisme ou dans les autres religions du livre dont j'ai pu parler. Donc, ça n'est pas ça, le vaudou. Le vaudou, c'est une religion qui, en effet, a un noyau central et puis qui a intégré, au fur et à mesure, des migrations successives de populations. J'ai cité les Yoruba, les Fon, les Ewe, on peut en rajouter d'autres. Depuis Tado au Togo, par exemple, les Hadja également, il y a aussi des migrations qui venaient du Ghana. À chaque fois, il y a eu une agglomération de divinités qui ont fini par faire ce grand panthéon qui, pour le coup, n'a plus bougé depuis le 19e siècle. Et là, maintenant, il est dans un état, qu'on va dire, relativement stable, maintenant que les frontières et les populations ne bougent plus trop.
Il a beaucoup bougé au moment d'une histoire tragique, au moment de l'esclavage. C'est comme ça qu'il est parti aux Caraïbes. On va un petit peu vite, mais c'est ça aussi. Et c'est très important dans le vaudou.
Oui, le vaudou est vraiment une religion internationale, si je peux dire, et elle s'est internationalisée dans le sang, dans la sueur et dans les larmes, en l'occurrence avec les esclaves qui ont traversé de force l'Atlantique avec le commerce triangulaire, européen en l'occurrence. Et c'est pas que le vaudou, en l'occurrence. Le vaudou était vraiment dans... on va dire la géographie actuelle, le vaudou existe au Togo, au Bénin et une partie limitrophe du Nigeria. Et c'est tout. Et donc, le vaudou a immigré de la même façon de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a d'autres religions également, des religions du Ghana, par exemple, des religions du Mali, du Sénégal actuel, etc., qui ont de la même façon traversé l'Atlantique. Et sur le bateau, avec cette acculturation forcée des notions minimaliste de christianisme qui leur a été donné de façon odieuse sur le bateau, eh bien, à l'arrivée, il y a des conglomérats, des mélanges, si on peut dire, des syncrétismes, pour dire le mot, de religion. Vous avez la Santeria à Cuba, vous avez le vaudou haïtien en Haïti, vous avez le quimbois dans les Antilles françaises, vous avez le condomblé au Brésil, etc., etc. Donc, chacune de ces déclinaisons, si on peut dire, ne sont pas des déclinaisons simplement du vaudou béninois, mais de beaucoup de religions fondamentale, essentielle de l'Afrique subsaharienne. Et le vaudou haïtien a pas mal de choses à voir avec le vaudou béninois, mais a aussi beaucoup, beaucoup de différences.
Autour de la question, comment remonter justement à la source du vaudou au Bénin? Vous nous avez mis, Philippe Charlet, sur les magnifiques traces musicales du prêtre, artiste vaudou, le roi Alec Péanou, dont on a entendu la voix magique au début de cette émission. Je propose d'écouter la suite de son chant et d'écouter les cloches vaudou arriver dans l'épopée du roi Guézo sur RFI.
Autour de ce roi Alec Péanou qui chante l'épopée du roi Guézo, on ne sait plus qui est roi. Est-ce qu'on peut parler de transe là, Philippe Charlier?
Alors c'est pas véritablement une transe en fait. Les voix des femmes que vous entendez derrière sont les voix des Amazones en fait. Ce corps militaire de femmes entièrement dévouées à leur roi. Dont la tradition rapporte que c'est le roi Wigbadja qui les a institués, on va dire, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Mm-hmm. Et vous avez deux types de sons qui moi, m'ont personnellement donné la chair de poule, mais ça, c'est parce que je suis particulièrement sensible à cette musique et ce qui en ressort. Vous avez d'une part la cloche bitonale, avec ce rythme qui est celui propre au vaudou béninois, et puis vous avez des percussions également à côté. Donc c'est cet ensemble-là, oui, qui rappelle l'époque du roi Guézo contre ses ennemis limitrophes en l'occurrence, pas encore contre les Français, on est à l'époque de Napoléon III, les rapports étaient encore plutôt corrects. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de transe, pas dans ce contexte-là. Mais par contre, la transe fait pleinement partie, en effet, du vaudou béninois comme du vaudou haïtien aussi.
Oui, on voit bien, quand vous dites c'est une religion, qu'il y a aussi donc toute une histoire, hein, comme dans toutes les religions, qui sont liées à un contexte historique. Et puis, il y a toute la partie mystique, initiatique, on a parlé de transe, vous-même, vous avez été initié, vous le racontez hein, dans cet ouvrage d'anthropologie, hein, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux, Philippe Charlier. Est-ce que vous pourriez nous faire partager un petit peu, on s'en rend compte effectivement en entendant ces musiques, on sent bien que voilà, que c'est fort, que c'est chargé. Comment est-ce que vous, médecin, hein, donc scientifique, à l'esprit ouvert et curieux, avez-vous vécu ces différentes initiations qui vous ont un peu chamboulé tout de même, qui vous ont fait changer?
Qui m'ont changé, très clairement, ça m'a changé. En fait, quand on est anthropologue, on oscille à chaque fois entre, on est vraiment sur le fil du rasoir, et on oscille entre la nécessité, le besoin et l'envie d'expérience, de vivre exactement ce qui est notre sujet d'étude, et puis de ne pas être totalement embarqué, de garder, vous voyez, un petit pied d'écart, de retrait pour pouvoir observer ce qu'on ressent. Donc c'est vraiment c'est une position qui est assez difficile. Alors avec le regard, comme vous l'avez dit au tout début, de médecin, d'archéologue et d'anthropologue, on arrive à cerner un tout petit peu la situation, mais En fait, cette initiation, elle s'est imposée à moi au fur et à mesure de mes séjours au Bénin. Au début, je voulais observer une initiation, je voulais mieux la comprendre pour à la fois mieux saisir le sens de la religion vaudou, mieux comprendre certains objets dont quelques exemples sont d'ailleurs conservés au musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Oui.
Et puis, comprendre par l'expérience, être témoin et noter chacun de ces petits détails. Puis, au fur et à mesure de mon insistance, eh bien, il m'a été proposé d'être moi-même l'initié et de faire l'expérience de l'intérieur. J'ai demandé évidemment conseil à Luc Brun, parce que son conseil était et son avis était prépondérant.
Médecin et votre ami et votre frère noir, comme vous dites, avec qui vous avez fait vos études et qui vous héberge chaque fois que vous allez au Bénin.
C'est ça, exactement. Et puisque lui avait confiance, eh bien j'y suis allé. Et en effet, c'est une initiation avec le protocole qui est propre à chaque communauté, chaque village et chaque couvent en l'occurrence. Mais c'est un protocole qui est long, avec à la fois une mort symbolique, avec une éducation qui vous est faite. On vous inculque des données, des notions de base, et on vous apprend à regarder le monde un petit peu autrement. Et en effet, oui, c'est une vision qui m'a considérablement enrichi, d'abord sur le plan intellectuel, sur le plan humain, et puis c'est une façon de voir le monde de façon beaucoup plus animée. Vous savez, le titre de ce livre, L'homme, la nature et les dieux,
oui.
c'est un peu un résumé, si on peut dire, non pas de la doctrine, car il n'y a pas de doctrine, mais c'est un résumé de la façon que peut offrir le vaudou de voir le monde. L'interpénétration permanente entre les hommes, une partie de la nature, les dieux, qui sont une partie de la nature aussi, des sortes de condensation de lignes de force et d'énergie sur lesquelles on peut éventuellement essayer de jouer un peu en notre faveur ou en notre défaveur. Et puis la nature elle-même, qui de toute façon est plus forte que tout. Mais le vaudou ouvre les yeux dans le sens où on voit en fait une énergie permanente, rien n'est inerte. Voilà, dans le vaudou, rien n'est inerte. Que ce soit le micro qui est devant vous, Caroline, mm-hmm. que ce soit la petite tasse de thé ou de café que j'imagine à côté de vous, que ce soit une pierre, un caillou, un arbre, une statue ou autre, il y a toujours une petite partie d'énergie qui circule et qui peut être détournée dans un sens ou dans l'autre. D'où l'intérêt et d'où la respectabilité absolue que tout vaudouisant doit avoir de la nature. Car s'en prendre à la nature, c'est s'en prendre au Dieu. Et donc, c'est se tuer soi-même, ce qui est radicalement interdit.
Et ce qui est radicalement inspirant, qui nous fait réfléchir aujourd'hui, vous parlez d'énergie, j'ai envie de dire de courant aussi. Alors, le courant est très bien passé, vous l'avez dit, avec votre collègue à l'époque, le docteur Luc Brun, médecin pathologiste avec qui vous avez fait vos études, qui a été donc votre initiateur au Bénin et au Vaudou. Je l'ai joint par téléphone à Parakou, où il est maître de conférences agrégé à l'université de Parakou. Luc Brun m'a parlé de votre amitié indéfectible et de votre formidable curiosité pour le vaudou, Philippe Charlier, dont vous étiez, m'a-t-il aussi dit, peut-être plus épris que lui. Je propose d'écouter l'éclairage de votre ami, ou plutôt de votre frère, le docteur Luc Brun, médecin pathologiste à Parakou, au Bénin, sur la question du vaudou.
C'est une religion, d'une certaine manière, comme une autre. C'est un peu difficile à définir. Hein. C'est la croyance des Africains en tout ce qui est surnaturel. C'est une façon également d'être en relation avec leur mort. Surtout, le plus souvent, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, ils recherchent les solutions, justement, en invoquant l'au-delà, entre autres.
Bien sûr, mais vous-même, en tant que médecin pathologiste, médecin légiste, né au Bénin et baigné dans cette culture vaudou, vous êtes aussi parfois à la limite, à l'intermédiaire, à la croisée entre les malades, les vivants, les morts. Est-ce que c'est une religion qui vous accompagne et qui peut être, comme l'étudie Philippe Charlier, qui peut accompagner aussi une vision médicale, rationnelle, scientifique?
Oui, la chose est possible. Vous savez, en toute chose, il faut la croyance. Il y a ce qu'on appelle le transfert en médecine, dans la pratique médicale. Si vous voulez avoir un bon taux de guérison chez vos patients, il faut vous arranger pour qu'il y ait ce transfert-là, c'est-à-dire qu'ils aient confiance en vous. Lorsque, de la même manière, les patients de certains guérisseurs, on va dire, ont confiance en eux, notamment pour certaines maladies, psychiatrie par exemple, entre autres, mais ils guérissent plus vite parce que simplement le patient adhère totalement à la chose. En dehors de cela, il y a le côté mystique. Il suffit d'y croire. En réalité, vous y croyez fortement et puis voilà.
Comment ça vous accompagne, ça, vous-même?
Comment ça nous accompagne? Nous, on est dans la médecine moderne. Je pense que c'est surtout les psychiatres qui ont le plus souvent besoin, qui sont le plus souvent en relation avec ce genre de situation. Moi, je suis dans les laboratoires, anatomopathologiste. Moi, c'est les diagnostics de cancer et autres. Mais cela dit, en tant qu'humain, en tant qu'homme, toute notre vie, quelque part, est conditionnée par notre passé, par notre culture, par l'éducation que nous avons vécue. Et vous savez, il y a moins de pathologies psychiatriques chez nous qu'en Europe, parce qu'il y a les liens familiales qui sont assez profonds. Vu sous l'angle de la famille traditionnelle africaine, vous n'êtes pas éduqué rien que par le père et la mère, vous êtes éduqué en réalité par toute la grande famille, l'oncle, les tantes et tout, donc il n'y a pas le temps de se morfondre sur tel ou tel aspect de la vie. Et donc du coup, c'est tout un tissu social qui est lié et qui soutient l'individu, et je pense qu'il est très important que cette culture-là ne disparaisse pas et qu'on ne copie pas à 100% ce qui se passe ailleurs. Nous avons ici des journées de psychiatrie à Parakou, qui ont été initiées par le professeur Gandaro, qui est actuellement recteur de l'université de Parakou. Les années où c'est organisé, on voit beaucoup d'Européens, surtout des psychiatres d'un certain âge qui viennent, parce que pour eux, l'avenir, c'est encore en Afrique, sur ce plan-là.
L'avenir est en Afrique, sur ce plan-là, et le vaudou en fait partie. Vous avez parlé de liens, de grandes familles. Quand Philippe Charlier parle de vous, docteur Luc Brun, il dit que vous êtes son frère noir. On peut dire la même chose de votre côté. Philippe Charlier, c'est votre frère blanc.
Mais tout à fait, tout à fait. C'est avant tout, comme je vous ai dit, d'abord des liens d'amitié. On s'estime beaucoup. Je l'apprécie énormément. Il est jeune par rapport à moi, mais très, très curieux. Et puis surtout, il respecte. Quand il vient ici, il critique pas. Il essaie de comprendre tout simplement. Et ce que j'aimerais de lui, c'est de mettre en valeur cette culture. C'est ce que je lui ai d'ailleurs dit. Non pas de critiquer, parce que tant que tu n'as pas compris dans le fond ce qui se passe, il faut pas critiquer. Je pense que c'est ce qu'il essaie de faire, hein, et de vulgariser également cette culture vaudou, on va dire. Hein, et je l'en remercie beaucoup.
Philippe Charlier, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce bel éclairage de votre ami, de votre frère, le docteur Luc Brun.
Oui, c'est assez émouvant de l'entendre. Luc est d'abord extrêmement prudent, hein, vous avez pu l'entendre.
Absolument.
Pour lui, le vaudou, je pense qu'il le vit comme une religion avec des débordements de sorcellerie, mais surtout, c'est un mot qu'il a répété, qu'il a martelé plusieurs fois, c'est avant tout extrêmement bien inscrit dans la culture du Bénin. Ça fait partie du patrimoine du Bénin. Et à ce sens-là, même si lui est chrétien, c'est une chose qui doit absolument être d'une part respectée, mais surtout qui doit être pérennisée. Il est vraiment dommage, c'est bien pire que dommage, c'est totalement regrettable et inacceptable que le vaudou soit pris à partie, malmené par soit des églises néo-protestantes, soit des mouvements de fanatisme et que des temples vaudous ou des couvents soient brûlés ou mis à sac. Et ça, c'est quelque chose qui le révolte comme ça, moi, ça me révolte. Je pense qu'il est sensible aussi, Luc, à cette idée que, alors certes, il y a des puissances naturelles ou surnaturelles, la foudre, la mer, la maladie, les eaux en général, mais il y a aussi une chose qui sous-tend le vaudou, c'est les ancêtres divinisés, et notamment nos propres ancêtres, pas simplement un grand roi du Nigeria ou autre, ou un ancien roi d'Abomey. Non, nos grands-parents, nos parents, notre oncle ou notre tante, etc. Le fait d'incorporer, comme on peut le retrouver dans d'autres courants religieux, à commencer par le confucianisme, le fait d'incorporer les ancêtres au panthéon et du coup aux forces vers lesquelles on peut se tourner implique de la part des humains un respect et également une lutte contre l'oubli. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, auquel Luc est sensible et auquel une grande partie de la population est sensible, y compris la jeune génération. Le fait de la généalogie, si on peut dire, et la distance entre les morts ancestralisés et parfois même divinisés et nous, les vivants, eh bien que cette distance n'est pas si importante que ça.
Ça, ça va bien au-delà de magie qu'on appelle ça noir ou blanche. On a un autre auditeur, Louis Jossat, Cotonou, au Bénin, qui nous a posé plusieurs questions auxquelles vous avez déjà répondu, hein, sur le vaudou est-il une culture ou une religion, hein, c'est les deux, hein, on peut dire en même temps, sur, bah, justement, sur la différence, vous avez répondu aussi entre la pratique du vaudou au Bénin et ailleurs en Haïti, mais il nous demande aussi quel est l'avenir du vaudou au regard de nos croyances actuelles, parce que quand on vous entend en parler, on dit que c'est extrêmement important parce que ça nous parle à tous humains sur Terre. Il y a du visible, il y a de l'invisible, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a du mystère, mais être vraiment en lien avec nos ancêtres, avec notre histoire, la question du respect, ben, tout ça, ça nous parle à tous et c'est bien loin de pratiques magiques ou de sorciers.
Alors ça nous parle, le respect pour les anciens et la mémoire des ancêtres n'est pas forcément quelque chose qui est bien inscrit dans la culture occidentale,
oui,
notamment
vrai.
En France. Ça, on ne vit plus avec ses grands-parents ou même avec ses parents, on les quitte assez vite, ce qui est l'opposé de la cellule familiale d'Afrique subsaharienne. Mm-hmm. Ça, ça ne nous parle pas trop, mais je trouve ça dommage, parce que c'était le cas dans la Grèce antique, dans la Rome antique, et c'était quand même un des fondamentaux qui malheureusement a disparu en Occident. En revanche, le respect de la nature, qui est inhérent au vaudou béninois et haïtien d'ailleurs aussi, pourquoi ? Parce que la nature est habitée, parce que la nature est tout sauf inerte, c'est pas un arbre, c'est pas un rocher, c'est pas une rivière ou un lac, ce sont autant de divinités qui logent, qui sont présents dans chacun de ces différents endroits, et bien du coup, on les respecte, on ne jette pas ces immondices, on ne met pas du mercure dans une source pour essayer de récupérer de l'or ou autre chose, on n'abandonne pas une voiture complètement désossée sur un bas-côté de chemin, etc. Voilà, cette obligation de respecter la nature et ce non-oubli des ancêtres, ce sont deux valeurs essentielles qui, à mon avis, justifient le fait que le vaudou est loin de devoir disparaître. Alors, c'est pas à moi de dire si une religion doit disparaître ou pas, bien entendu, mais ça légitime d'autant plus sa pérennité. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle est bien attaquée. C'est une religion qui a mal, si je peux dire.
Et oui, alors que pourtant, effectivement, on se dit que elle a de l'avenir. Enfin, aujourd'hui, il y a quelque chose à nous dire, quelque chose à retenir, que ce soit du côté du Bénin ou du côté d'Haïti, autour de la question sur les routes du vaudou, en votre compagnie, donc Philippe Charlier, mais aussi avec Mélissa Lavaux, qui elle aussi chevauche le cheval vaudou sur RFI, entre Québec, Haïti, le Bénin et Paris. On écoute Mélissa Lavaux sur RFI. Thank you. Mélissa Lavaux sur RFI, les mains montées, cheval moins. Autour de la question, comment remonter aux sources du vaudou en votre compagnie? Philippe Charlier, vous êtes médecin, archéologue, anthropologue et vous venez de publier aux éditions Terre Humaine Vaudou, l'homme, la nature et les dieux, avec en couverture une photo magnifique que vous avez prise. Allez, décrivez-la nous, s'il vous plaît, Philippe Charlier, cette photo d'un prêtre vaudou, c'est ça?
Alors, c'est pas un prêtre vaudou, non, c'est un initié, et en l'occurrence un initié de haut grade. C'est un Egungun, donc c'est un revenant, une photographie en noir et blanc. On ne voit rien de cet homme, et d'ailleurs, il n'est pas censé y avoir un homme. Mmh. C'est supposé être un tissu multicolore, ce que la photo noir et blanc ne montre pas, un tissu qui s'anime parce qu'il est pénétré par l'âme, l'esprit d'un fantôme, d'un revenant, donc un de ses ancêtres divinisés, qui est, non pas qu'il refuse de mourir, mais qui n'est pas encore mort totalement. Et donc ce tissu s'anime, en réalité donc, c'est un initié de haut grade qui est à l'intérieur et qui va danser, qui va parler avec la langue des morts, en l'occurrence le Yoruba, cette langue qu'on parle toujours au Nigeria, et on ne voit rien de lui, on ne voit pas ses mains qui sont cachées par des gants noirs, on ne voit pas son visage qui est derrière un tapis de kauris et des petites cordelettes de perles de verre, on ne voit pas ses jambes et ses pieds qui sont derrière des tissus multicolores, c'est un tissu qui est extrêmement coûteux, hein. C'est un objet que la famille va devoir payer pendant plusieurs dizaines d'années tellement il est prestigieux. Et cet Egungun va venir à période systématique pour entretenir le rapport entre les vivants et les morts. Il va venir vaticiner, comme on disait chez les Étrusques et chez les Romains, c'est-à-dire qu'il va transmettre un message d'outre-tombe, en l'occurrence il va prédire l'avenir. Il va dire aux gens qu'il va vraiment sur lesquels il va se jeter, si je peux dire, sur la place centrale de la petite collectivité, il va leur dire « Toi, je sais que tu trompes ta femme, tu arrêtes tout de suite. » Ou alors « Toi, je te déconseille de prendre la voiture parce que tu vas avoir un accident. » « Toi, je sais que tu as volé 5000 CFA, donc tu vas le rendre à telle ou telle personne. » Ce genre de choses. Ou « Toi, arrête d'essayer de voler ton prochain ou d'avoir de mauvais calculs ou de mauvaises pensées ou autre. » Ce rapport entre les revenants et les vivants, il va se faire dans un lieu bien défini, avec des percussions, avec des bruits, avec un rituel qui est extrêmement bien précis et codifié. Mais il va aussi y avoir une distance obligatoire entre les vivants et les morts. Il y a un aide qui généralement est un initié de bas grade, qui lui n'est pas déguisé, qui est en costume de ville, si on peut dire. Mm-hmm. Et il va avoir un bâton, celui-ci. Et il est jeune, et il va maintenir une distance raisonnable entre le mort et le vivant. Si on touche ce costume des Egungun sans avoir été soi-même précédemment initié aux Egungun dans un couvent, eh bien le risque c'est de mourir réellement, c'est-à-dire d'être pris de convulsions et de tomber inerte, mort, jusqu'à ce qu'on soit ensuite transporté en urgence dans un couvent pour être réanimé de façon plus ou moins magique. Voilà, d'abord, c'est une des choses les plus extraordinaires à laquelle j'ai pu assister en tant qu'homme sur Terre, véritablement, parce que c'est une démonstration. On peut la voir sur le plan artistique, on peut la voir sur le plan rituel, on peut la voir sur le plan religieux, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça se produit à un moment très particulier, c'est à la tombée du jour, un jour où il ne pleut absolument pas, car la pluie ne doit absolument pas toucher le costume des Egungun, ça serait tabou. Et donc on est à la tombée du jour, vous voyez, ce moment où on ne sait plus très bien si c'est le jour, la nuit, l'odeur des braseros, les femmes qui commencent à préparer les repas, les moustiques qui commencent à sortir. C'est vraiment un moment très particulier, les odeurs. On a sur les lèvres le goût de la terre, parce qu'ils font beaucoup bouger la terre en courant un peu dans tous les sens, et on a ce goût-là. En plus, quasiment tous les sens sont mis en branle quand les Egungun sortent. Ils ne sortent pas d'ailleurs tout seuls, ils sortent souvent à 9, parfois 15 ou plus. Voilà, c'est une démonstration à la fois de la force, de la puissance des vaudous et surtout de la présence des morts.
C'est ça, en lien, on a l'impression, on le sent un peu sur cette photo très énigmatique, sur cette image, le lien finalement et la distance qu'il faut garder, entre les vivants et les morts. Comment photographier le vaudou, l'invisible, hein. Je propose un nouvel éclairage celui d'une photographe et réalisatrice de films documentaires, Catherine de Clipel, qui a beaucoup travaillé au Bénin et au Togo sur les rites vaudous entre 1988 et 2019. Les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme viennent de les rassembler dans un magnifique ouvrage intitulé « Photographier les vaudous ». Moi, je ne suis pas là. Ce sont eux qui sont là, a confié cette anthropologue visuelle à Caroline Fillette, qui lui a demandé précisément comment photographier l'invisible.
Par le film, évidemment, et aussi par la photo, qui est un travail en parallèle. Mais en même temps, on ne rend jamais vraiment visible, parce que l'invisible échappe toujours. On matérialise des choses, mais la structure de ces cultes fait appel à l'invisible. Le mot du vaudou, lui-même le dit, hein, vaudou, c'est l'invisible. C'est le non connaissable.
Dans votre ouvrage, vous avez consacré toute une série de photos au rite de possession prise au Togo en 1989. Est-ce que vous pourriez nous décrire une de ces photos ?
Celle qui se trouve à la page 65 du livre, où on voit deux femmes possédées par le vaudou Ada, qui est un vaudou qui fait partie du Panthéon. Et on voit très clairement le côté halluciné de la première personne, donc qui est chevauchée par le vaudou. C'est pas elle qui est là, c'est pas elle qui est présente, c'est la présence du vaudou qu'elle manifeste. La personne qui se trouve derrière elle, en fait, elle n'est pas possédée. C'est quelqu'un qui est là pour pouvoir contrôler et l'aider et voir si tout va bien.
Vous voulez réagir à cet éclairage, la photographe Catherine de Clipel, au micro de Caroline Fillette? Comment photographier l'invisible, Philippe Charlier ?
Oui, j'aime beaucoup ce concept de photographier l'invisible. C'est très bien dit, en fait. Son travail est très, très beau. Et elle a bien saisi, justement, ce fil ténu entre la réalité et le divin, si je peux dire, ou le magique. Mmh. C'est vraiment un très beau travail. En revanche, il y a un mot que je n'aurais pas retenu, c'est celui de possession.
Ah oui.
Là, on est vrai. Oui, j'aurais parlé de transe, j'aurais parlé de habiter par un esprit ou par un dieu, habiter comme si, ou chevaucher éventuellement, comme si l'homme, l'initié, était une monture et que le dieu descendait sur lui et le montait littéralement. Mmh. Mais le mot de possession, généralement, est un mot qu'on utilise plus quand on est possédé par un esprit malin, par un diable, par un monstre ou autre chose. C'est justement le terme qu'utilisent les églises néo-protestantes ou les commentaires critiques vis-à-vis du vaudou en disant que ce sont non pas des trans, non pas des dieux qui visitent leurs adeptes, ce qui d'ailleurs est un cadeau, mais parfois les dieux sont un peu trop excités, si on peut dire, et c'est pour ça qu'il y a d'autres initiés qui sont là pour prêter main forte et éviter les débordements. Voilà, c'est tout sauf négatif, et donc le mot de possession, moi je ne l'aurais pas forcément utilisé, non.
Allez, on préfère chevaucher nous aussi, et si nous étions tous un peu des enfants chevauchés, des enfants du vaudou, en tout cas ça nous permet de même un clin d'œil à Vaudou Child. Jimmy Hendrix sur RFI. Dans la transe électrique de Jimi Hendrix, Vaudou Child sur RFI, c'est pour vous en clin d'œil. Philippe Charlier, on est peut-être tous un peu, enfin en tout cas, Vous nous le faites passer hein, à travers cet ouvrage, cette réflexion, cette autre approche, cet autre regard sur le vaudou. Et si on était tous un peu, ou si on ne se serait peut-être pas si mal que ça, si on était tous un peu des enfants du vaudou. Philippe Charlier, qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas si nous sommes tous des enfants du vaudou. En tout cas, je voulais juste vous signaler une excellente reprise de Voodoo Child par Angélique Kidjo.
Sacrée béninoise.
Sacrée béninoise, une femme extraordinaire, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la connaissance de la culture de son pays. Et cette reprise, elle est assez sympa aussi. Donc, une prochaine émission, vous pouvez la
garder. On pourrait se la mettre entre les oreilles, absolument. Quel est le message, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire passer, Philippe Charlier, en tant que médecin, en tant qu'anthropologue, en tant qu'archéologue, en tant qu'auteur, en tant que directeur de la recherche au musée du Quai Branly, avec cet ouvrage et cette approche vraiment très proche, mais avec le recul qu'il faut de l'anthropologue, du vaudou dans cet ouvrage, hein, L'homme, la nature et les dieux.
Eh ben, j'avais une bonne amie qui travaillait à l'université de Nantes qui avait forgé une expression qui disait « modernité de l'antique ». Elle travaillait sur les odeurs de l'antiquité gréco-romaine. Mmh. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une modernité et même une contemporanéité du vaudou, qu'il soit béninois ou qu'il soit haïtien. D'abord, c'est une religion qui a toute sa place dans les différents panthéons actuels respectable, si on peut dire, au sens où ce n'est pas une sorcellerie qui doit être critiquée, même si ça incorpore dans ses pratiques et dans ses rituels un sang frais et vif d'animaux qui doit couler pour animer certains fétiches, mais ça fait partie du rituel. Et puis, également, toute son utilité dans les mesures de protection de la nature et de la défense d'un patrimoine, notamment le patrimoine culturel du Bénin. On le voit, certains des palais vaudous, qui sont également des palais politiques sur le plateau d'Abomey ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont un intérêt non seulement en termes architectural, en termes politiques, mais également sur le plan religieux et magique. Il y a quelque chose là à conserver pour les générations futures. Il y a un témoignage de la souffrance de générations et de générations de Béninois actuel, mais d'habitants de ce territoire qui ont été outragés par l'esclavage et dont le vaudou entretient toujours la mémoire. On se souvient des esclaves quand on pratique le vaudou actuellement. On envoie toujours des barques sur la mer destinées à Mami Wata pour conjurer, si on peut dire, la peine, l'irritabilité et la frustration des esclaves qui n'ont pas pu vivre une vie normale.
Contre l'oubli, merci Philippe Charlier d'avoir partagé aussi naturellement, j'ai envie de dire, votre expérience et vos recherches anthropologiques, également de médecin. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui devrait vraiment faire référence, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux au Bénin, paru dans la collection Terre humaine aux éditions Plomb. Et vous revenez quand vous voulez, cher Philippe Charlier, merci.
Merci Caroline, à bientôt.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, autour d'une autre mystérieuse question, celle de la matière noire, avec la formidable astrophysicienne Françoise Combe, médaille d'or 2020 du CNRS, extraordinaire passeuse de sa science, cosmologique et planétologique, sous les étoiles exactement, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.